12h à Kinshasa, 13h à Kananga, Goma et Kisangani.
Radio Kapi.
Je suis Moussa Oponde pour le journal.
Reddition samedi de près de 70 éléments de la milice Maléwa. Ces combattants Toa se sont rendus aux éléments de l'armée basée à Mwenge, territoire de Pweto, dans la province du Haut-Katanga. L'UDPS exige la libération de ses cadres, de cadres de sa fédération du Congo central, arrêtés lors des manifestations de l'opposition du 30 novembre dernier. Ils sont 8 sur 30 détenus dans un cachot d'une capacité de 10 personnes. Lancement la semaine dernière à Kisangani de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Nous en parlerons dans notre dossier en seconde partie du journal. Bonjour et bon début de semaine à tous. Près de 70 combattants Toa de la milice Maléwa se sont rendus samedi aux éléments des FARDC basés à Mwenge. Ils ont également déposé plusieurs arcs et flèches. D'autres sources indiquent aussi que plusieurs barrières érigées par cette milice sur plusieurs routes ont été levées. Dans l'entretemps, l'autorité territoriale annonce une réunion tripartite entre la RDC, la Zambie et le HCR demain mardi à Mansa, localité située à 50 km de la frontière. Cette session sera axée sur la situation sécuritaire et économique de Pweto, qui a déjà enregistré plus de 20 000 déplacés. Neuilly Kabena.
Selon les sources militaires, les 70 éléments de la milice Maléwa font partie de la délégation venue répondre à l'invitation à la paix amorcée par les autorités politico-militaires du territoire. Ils ont remis près de 50 arcs et plusieurs flèches avant de repartir dans leurs différents camps pour conscientiser les leurs à déposer aussi les armes. La même source confirme aussi que la cinquantaine des barrières érigées sur différentes routes ont été levées. Cette annonce de la reddition ne rassure tout de même pas la population de Pweto. Cette milice Toa, qui cite pour la première fois son nom, à savoir Maléwa, revient à la charge à chaque fois qu'il y a une accalmie. La société civile appelle les FARDC à ne donc pas baisser la garde. Dans l'entretemps, une réunion tripartite RDC Zambie et HCR est prévue ce mardi à Mansa, à la frontière zambienne. L'administrateur du territoire de Pweto indique qu'il sera probablement question de statuer sur la situation des Congolais qui se sont réfugiés en Zambie. Au centre de transit de Chelenge, ils sont 12 300 à ce jour, alors qu'au niveau interne, on compte 13 200 déplacés répartis dans près de 50 villages de Lubumbashi, Neuilly Kabena, Radio Kapi.
Au Maniema, plus de 15 000 personnes déplacées, de centaines d'écoles fermées et de villages entiers déserts et dévastés. Et voilà les conséquences humanitaires de l'insécurité qui prévaut actuellement dans plusieurs parties du territoire de Kabambaré au sud de cette province. La société civile de Bikenge, territoire voisin où se sont réfugiés la plupart de ces déplacés, plaide pour une assistance urgente. Mathieu Ilunga, reportage.
Les déplacés qui se sont installés à Bikenge sont venus notamment de Salamabila, Kasongo, Kabambare, Wamaza, Lusange et Babuyu. Leur arrivée a provoqué une certaine rareté de produits et une spéculation de prix sur le marché, annonce la société civile. Un gobelet de farine de manioc passe de 100 francs congolais à 150 francs congolais. Un gobelet du riz qui se vendait à 100 francs revient actuellement à 250 francs congolais et une bouteille d'huile de palme coûte à présent 1000 francs congolais au lieu de 350 francs congolais. Quant aux écoles, dans plusieurs endroits du territoire de Kabambaré, elles sont fermées. Tous les enfants et leurs parents ont fui dans la forêt ou vers d'autres villages. C'est le cas dans les Bangubangu Lulindi, à Bangubangu Babuyu, à Bangubangu Bahombo, où les opérations militaires sont en cours. La société civile de Bikenge plaide non seulement pour une assistance aux déplacés, mais aussi pour la cessation des hostilités afin que la paix revienne dans cette zone. Kindu, Mathieu Ilunga Chambua Monachebe, Radio Okapi.
Dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, deux présumés criminels arrêtés par la population fin octobre dans la localité de Kamandi et remis au FARDC sont à nouveau libres et menacent à nouveau la population et les activistes de droits de l'homme dans la région. Dans un communiqué publié hier dimanche, le Cercle international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement, CIDOP en sigle, demande aux responsables de la justice militaire d'enquêter sur le cas de ces présumés criminels qui détenaient l'arme qui appartenait à un policier tué en plein service quelques semaines avant leur arrestation. Cette organisation pense que les FARDC auraient contribué à l'évasion de ces hommes. Delico Mbambu, secrétaire exécutif de CIDOP, est au micro de Rosalie Zawadi.
Contre toute attente, ces présumés criminels sont actuellement libres et ils sont en train de circuler dans les environs du village de Kamandi et ils ont opéré dans l'un des quartiers de Kamandi. Ils ont pillé l'argent, ils ont emporté des biens de valeur dans un domicile. Ils ont tiré plusieurs balles sans être inquiétés, ils se sont soustraits après. Et c'est pourquoi nous demandons à l'auditeur militaire supérieur près la cour opérationnelle du Nord Kivu de déclencher des enquêtes sur l'invasion de ces deux criminels et de sanctionner certains officiers qui ont coopéré dans cette invasion. Et nous demandons aussi à la population de Kikubo Kamandi, Kitotokwa, Buroyo, de continuer à coopérer avec les services de sécurité de manière à pouvoir déceler ce présumé coauteur pour qu'il puisse être réarrêté et sanctionné conformément à la loi.
En réaction, le porte-parole des opérations Sokola Sud explique que les FARDC ne sont pas impliqués dans l'évasion de ces présumés criminels. Le lieutenant Jules Ngongo indique que ce sont des Maïmaï qui ont attaqué la prison de Lubero le 12 novembre dernier, qui ont libéré ces bandits. Il assure que les FARDC sont déterminés à mettre un terme à l'activisme de tous les malfrats dans cette zone. Je l'ai dit en titre, l'UDPS Congo Central exige la libération pure et simple de 8 membres de ce parti détenus à ce jour dans des conditions très difficiles au cachot du parquet de grande instance de Matadi. D'après le président fédéral de l'UDPS Congo Central incarcéré, si rien n'est fait par les organisations de droits de l'homme, ils seront transférés à la prison de Matadi. Ces membres de l'UDPS ont été arrêtés lors des manifestations de l'opposition du 30 novembre dernier. Guérogé Nyampala pour plus de lumière.
Ils sont au total 8 membres cadres et combattants de l'UDPS Congo Central arrêtés. Il s'agit notamment de Mwanda Swami Paka, président fédéral intérimaire, Ngui Lutamba Cyril, chargé de l'organisation politique, Mwanza Lumbala, combattant, Luyindu Lamutwari, lui également combattant, et Monsieur Albert, vice-président cellulaire de l'UDPS en voie doux. C'est depuis le vendredi dernier qu'ils ont été acheminés dans ce cachot du parquet des grandes instances de Matadi. Ces détenus affirment vivre dans des conditions très difficiles. Une cellule construite pour accueillir 10 personnes. Aujourd'hui, ils sont une trentaine de détenus dans ce cachot. Ils ont été entendus hier, selon l'un d'eux. D'après la même source, ils seront transférés ce lundi à la prison centrale de Matadi. Une détention qualifiée d'arbitraire, selon l'UDPS Congo Central. Le président fédéral de ce parti, détenu, a déclaré à Radio Okapi que tous ses co-détenus membres de l'UDPS ont refusé de signer les procès-verbaux. D'après un magistrat du parquet de grande instance de Matadi, ces cadres et combattants de l'UDPS Congo Central sont poursuivis pour les infractions de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté de l'État. Le bureau conjoint pour le droit de l'homme de Matadi a échangé avec l'avocat général de ce parquet à ces sujets. C'était la semaine dernière. Matadi, Guirogé Nyampala, Radio Okapi.
Où en est-on avec le budget exercice 2018 des provinces? Si dans certaines provinces, le budget est en cours ou en fin d'élaboration, comme dans le Katanga et le Kwango, dans d'autres, le budget est déjà sous examen au niveau des assemblées provinciales. C'est le cas au Sud Kivu, en Ituri, au Kasaï central et au Congo central, pour ne citer que ces provinces. À l'Équateur, par contre, les députés s'intéressent à l'élection du nouveau gouverneur, selon nos sources. Pendant ce temps, les assemblées provinciales de Tanganyika, de la Lomami et du Kasaï, elles, ne fonctionnent pas. Le point avec Richard Junior Kamunga.
La suspension des plénières dans les Tanganyika et les Kasaï date de 2 mois maintenant, si l'ordre du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Pour les Tanganyika, les motifs et la motion de censure et la protestation contre le président de l'Assemblée provinciale, et pour le Kasaï, la bagarre entre les députés provinciaux au cours de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire intervenue le 30 septembre. 2 mois sans plénière alors que la session ordinaire de septembre est essentiellement consacrée à l'examen et l'adoption du budget. Cela signifie que ces provinces fonctionneront sans budget pour l'exercice 2018. Les députés provinciaux du Kasaï demandent à Emmanuel Chadari d'élever la mesure de suspension pour que leurs provinces soient dotées d'un budget. Les députés provinciaux du Kasaï, René Kalimba Chamboui.
Qu'on puisse au moins réouvrir les plénières, le temps qu'il nous reste, nous allons examiner ce budget et le voter et le mettre à la disposition au niveau des provinces.
Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a-t-il le pouvoir de suspendre les activités des assemblées provinciales, René Kalimba Chamboui.
D'après la constitution, les assemblées provinciales sont autonomes. Dire que nous sommes sous système du ministère de l'Intérieur, non.
Et du côté de l'assemblée provinciale de Lomami, les travaux sont aussi suspendus depuis 5 jours. La police empêche tout accès à ces sites. Les députés provinciaux demandent au gouverneur Patrick Kamanda de lever ces blocus qui retardent l'examen du projet de budget 2018.
Direction province du Sankuru, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Charles Pongo Dimanja, à peine réhabilité par la Cour constitutionnelle, est de nouveau sous la menace d'une autre motion incidentielle. Une dizaine de députés provinciaux sur un total de 16 auraient apposé leur signature sur une déclaration de retrait de confiance envers Charles Pongo Dimanja. Une menace qui arrive alors que ces derniers venaient d'être réinstallés le 30 novembre après plus d'une année de mise à l'écart. Il estime ainsi s'être amendé vis-à-vis de ses pairs. Charles Pongo Dimanja, joint par Chris Mukand.
Je crois que j'ai appris pendant ce temps-là à voir qu'il est important de transcender certains sentiments humains. Et j'ai souhaité, plutôt que de tourner la page, que nous puissions changer carrément de livre pour ne plus se rappeler de ce passé triste dans notre histoire. J'ai demandé également des excuses publiques envers tous en vue de ne plus peut-être voir ce qu'ont été les vicissitudes de notre nature humaine, autant que, de notre côté, nous avons fait un effort de pouvoir rappeler la nécessité de s'unir. J'aimerais également dire au peuple congolais, notamment à l'opinion publique provinciale, qu'effectivement, la justice existe dans ce pays et que ces décisions ont été respectées dans la province de Sankuru et nous devons transcender nos sentiments.
Élections en RDC au sud de Kivu. L'association Cordon des femmes congolaises pour l'équilibre des ménages genre en action, en collaboration avec la CENI, antenne provinciale, organise une formation à l'intention de ses membres venus de différents territoires du sud et du nord Kivu. Une fois formées, ces femmes iront à leur tour former leurs homologues sur le thème « Femmes actrices des élections locales en RD Congo ». La coordinatrice de l'association CEFSEM, Astrid Mujinga, explique au micro de Jean Kassami.
Il y a de cela quelques mois, ONU Femmes, en collaboration avec le ministère provincial du genre, avait organisé un atelier d'un jour sur les élections. Et ils nous ont donné en fait comme recommandation de sensibiliser nos bases pour que les femmes puissent se faire enrôler massivement et aussi porter leur candidature. C'est-à-dire postuler au poste de prise de décision comme il y a les élections qui se pointent à l'horizon. Pourquoi les femmes? Parce que justement, dans la plupart des cas, les femmes sont délaissées pour compte. Les femmes sont très très peu nombreuses dans les institutions de prise de décision. Quand nous voyons leur pourcentage dans les gouvernements actuels, le gouvernement national, quand nous voyons leur pourcentage dans les gouvernements précédents, quand nous voyons leur pourcentage dans tous les gouvernements qui se sont formés à travers le pays, dans toutes les provinces, nous voyons que les femmes n'atteignent même pas les 30%. Les femmes ne sont pas encore représentées suffisamment dans les organes de prise de décision à tous les niveaux.
Rendons-nous à Luisa, au Kasaï central. Une tête d'érosion menace la route qui mène vers les provinces de la Lomami et du Kasaï oriental. L'administrateur du territoire de Luisa, qui livre cette information, signale qu'une partie du bâtiment abritant le commissariat territorial de la PNC a déjà été emportée. Clément Apachapou appelle à l'intervention de la province pour stopper l'avancée de cette érosion. Il est joué au téléphone par François Kadima.
Il y a maintenant un grand ravin, franchement. La route même aussi, la route qui mène vers les deux provinces de Lomami et Kasaï oriental, parce qu'on doit passer par là, est menacée aussi. Une bonne partie de cette route est emportée par les eaux. Bon, je crois au stade où cette érosion se trouve maintenant. Les travaux à la mer, là, qu'on vient de plus. Il faut maintenant des travaux mécaniques. Et là, ça dépasse nos forces locales. Il faudra l'intervention de la province maintenant. Nous, on a fait un rapport là-dessus. On attend la suite. Les grands ravins, hein. Je préfère que ça soit des machines qui travaillent là-bas. Parce que là, on a encore rien. On attend. La province peut envoyer des machines pour ces travaux.
En Ituri, un véhicule avec immatriculation de l'administration publique congolaise est bloqué depuis environ une semaine par les autorités ougandaises du district d'Arua. Il s'agit d'un véhicule qui était utilisé par le ministre provincial des Finances. Selon la société civile d'Arua et des sources concordantes, les autorités ougandaises exigent au gouvernement provincial de la remise de tous les véhicules volés en Ouganda, dont certains se trouveraient en territoire congolais d'Arua. Le gouverneur de la province de l'Ituri dit n'est pas être au courant de cette situation. Isaac Remoyope nous en parle.
La société civile d'Arua, qui cite les autorités territoriales, affirme que ce véhicule du ministre provincial des Finances est entré officiellement au district ougandais d'Arua pour la réparation. Cependant, l'entretien que la police ougandaise s'est déployée au garage pour confisquer les véhicules. Ces autorités exigent au préalable la remise de tous les véhicules volés en Ouganda, dont l'un se trouverait au village congolais d'Ondolé à une dizaine de kilomètres d'Ariwara et l'autre à Arua Centre. La société civile d'Arua s'insurge contre cette démarche des Ougandais qui ne favorise pas les relations de bon voisinage entre les entités frontalières des deux pays. Son président Innocent Magoudé.
Le ministre n'a jamais volé de véhicule. On remet le véhicule du ministre qui a traversé voie normale. S'ils disent la réparation, ça coûte combien le ministre paye. Et là, on s'arrête là-bas. C'est un voleur. Il y a la justice qui est là. Les Congolais ne traversent jamais pour aller voler les véhicules en Ouganda. Ce sont les Ougandais eux-mêmes qui, selon leur dire, volent leur véhicule. Ils ont toujours des complicités de nos Ougandais. On fait passer un véhicule, on vient vendre.
Des sources locales indiquent qu'une délégation congolaise du territoire d'Arua s'est rendu cette semaine à Arua pour réclamer la restitution de ces véhicules mis en vain. Contacté, le gouverneur Abdallah Penembaka dit qu'il n'est pas encore saisi de cette nouvelle. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
En Mauritanie, trois femmes veuves et deux orphelins, membres de l'organisation des veuves et orphelins des militaires négro-mauritaniens, ont été relâchés hier dimanche à Kaïdi, dans le sud du pays, après avoir passé 5 jours en détention. Tous les 5 avaient été arrêtés mardi 28 novembre, alors qu'ils brandissaient des banderoles et des tracts au passage du cortège du président Mohamed Ould Abdelaziz. Les proches des militaires négro-mauritaniens exécutés entre 1989 et 1991 réclament toujours justice. Ils demandent des enquêtes et des poursuites contre les responsables de ces exécutions.